suis la promo 95 de Sciences Po Lyon. J'ai poursuivi après avec un master 2 en finance. Et j'ai eu différents postes de directrice financière et puis de directrice d'établissement de santé, puis de directrice générale adjointe dans le médico-social. Donc, en fait, je suis engagée dans la santé depuis pas mal d'années déjà, avec plus de 15 années d'expérience professionnelle, mais aussi de l'expérience d'engagement dans par d'autres voies. J'ai créé début 2018 une association qui s'appelle CroniLyme. Sur la maladie de Lyme, comme son nom l'indique, pour justement aller travailler avec les politiques sur cette question, à la fois de la démocratie sanitaire et puis des outils, des politiques publiques qu'on peut mettre en place sur une pathologie comme celle-ci, qui est une pathologie aujourd'hui qui n'est pas vraiment reconnue, et c'est tout l'enjeu. On vous en parlera un petit peu après. J'ai cofondé avec 4 autres personnes, dont Laura, le collectif Préface. On vous en parlera un petit peu aussi, qui est un collectif de patients ressources. On va dire que je développe depuis pas mal d'années déjà cette notion de patient partenaire, déjà en étant patiente moi-même, et puis en ayant beaucoup travaillé sur la relation soignant-patient dans le cadre de mon expérience professionnelle, puisque quand je dirigeais les établissements de santé, j'avais un certain nombre de médecins dans les établissements dont je m'occupais, et donc la relation entre médecins, entre patients et médecins, et avec tous les personnels soignants, est quelque chose que j'ai pas mal vécu. Voilà, je vais passer la parole à Laura.
Merci Christelle, merci de nous recevoir ce soir. Je suis Laura Arnal. Alors, je suis ingénieure de formation et j'ai travaillé pour ma part dans les domaines de conduite du changement, dans marketing et vente, et j'ai mené des projets pour des entreprises franco-allemandes. En fait, je vous parle depuis Cologne, en Allemagne, où j'habite depuis une douzaine d'années. Et je suis l'auteur du livre « J'ai surmonté la maladie de Lyme » aux éditions Odile Jacob. J'ai créé le blog limetime.eu et j'accompagne actuellement des patients souffrant de maladies de Lyme de manière individualisée, non pas en tant que thérapeute, mais en fait en tant que patient coach. J'aide ces patients en fait à mobiliser leurs forces pour qu'ils s'approprient leur plan de traitement et qu'ils deviennent auteurs de leur guérison. À l'action. Et en parallèle, je suis étudiante, je suis en DU d'éducation thérapeutique à l'Université des patients, à la fac de médecine de la Sorbonne, de Sorbonne Université. Et donc, j'espère avoir le diplôme de patient expert dans quelques jours. Alors, cette formation de cette année m'a donné une grande impulsion et notamment celle de créer et de co-créer avec Christelle et d'autres patients le collectif Préface. Alors, on va peut-être vous en parler un tout petit peu maintenant. Alors, on peut passer à la slide suivante.
C'est plutôt la slide 1, je crois, en fait, ce que là, voilà. Parfait.
Alors, le collectif Préface pour patients, ressources, facilitateurs, Europe, en mots anglais, parce que on est un groupe plutôt européen. On va vous le montrer, on passe à la slide suivante. Alors, pourquoi Préface? Si on peut, merci PowerPoint. Parce que d'abord, on est un collectif de patients. On est 5 patients et on a des savoirs expérientiels. On a vécu certaines maladies et notre objectif est de faciliter le partenariat de soins et au niveau européen, parce qu'on est en fait de 5 nationalités différentes et donc on s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là. Et ça fait un joli mot qui est notre ADN. On peut passer à la slide suivante. En fait, notre collectif, il présente, il recommande, il propose l'engagement des patients dans les instances de santé. Alors, on a envie d'œuvrer pour des meilleurs résultats de santé, une meilleure satisfaction des patients et une amélioration du système de santé. Et là, vous voyez sur la slide, on n'est pas, c'est pas le patient au centre d'un point, enfin, au centre d'un cercle, c'est le patient avec le patient, avec les politiques, avec les médecins professionnels de santé, avec les instances de santé, le patient en Europe, avec les établissements de santé. Et notre idée, c'est justement de co-construire pour améliorer notamment le parcours, enfin en premier lieu le parcours de soins, la prise en charge de patients comme nous l'avons vécu en fait, permettre de donner des capacités aux patients en auto-soin et enrichir aussi l'expérience des soignants. On passe à la slide suivante.
Alors, le collectif travaille sur les maladies chroniques multisymptomatiques d'origine potentiellement infectieuse. Alors, vous allez trouver ça long, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi après, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est complexe. On aborde en fait les malades qui sont potentiellement malades de Lyme, des co-infections de Lyme, parce qu'il y a pas mal de pathologies sous-jacentes également à cette pathologie de Lyme elle-même. Ce qu'on appelle l'encéphalomyélite myalgique, qui est aussi le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, et puis récemment le Covid long, qui commence à rejoindre la cohorte de ces pathologies dont on ne sait pas grand-chose, qui sont effectivement chroniques, elles s'inscrivent dans le temps, qui peuvent même être dégénératives, qui sont multisymptomatiques, c'est-à-dire que les gens présentent une quarantaine, voire une cinquantaine, voire plus de symptômes. Il y a une origine qui est potentiellement infectieuse, puisqu'un grand nombre de ces patients ont des sérologies qui sont positives à un certain nombre de pathogènes, et pas un seul pathogène, mais plusieurs, qui font des pathologies qui sont particulièrement complexes, qu'on appelle aussi des pathologies environnementales. C'est-à-dire est-ce qu'on est malade de nos corps, est-ce qu'on est malade de l'environnement aussi et de nos systèmes immunitaires qui sont fragiles ou qui sont fragilisés. Donc en fait, on va travailler dans ce collectif sur tous ces patients qui sont ce qu'on appelle des patients sans solution. C'est-à-dire que du fait de cette pathologie qui est mal délimitée, le parcours de soins ne répond pas non plus correctement aux besoins des patients, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour délimiter cette maladie, mieux la comprendre et proposer des traitements thérapeutiques consensuels, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de consensus non plus sur les traitements. On a du coup des patients qui sont en errance thérapeutique, et c'est vraiment sur tous ces patients-là qu'on va travailler pour intégrer des patients partenaires dans tout ce parcours de soins et les accompagner. On va passer à la slide suivante.
Alors là, c'est le patient en sait plus sur sa maladie que moi-même. Il doit avoir une meilleure connexion réseau que moi. Deux médecins qui discutent. Et en fait, le médecin, il en sait beaucoup, beaucoup sur beaucoup de choses. Mais actuellement, on s'aperçoit que le patient en sait énormément sur très peu de choses et notamment sur sa pathologie, sur ce qui l'occupe. Et en fait, on assiste à quelque chose dont les personnes s'emparent, en fait, et les patients, en fait, s'engagent. Les patients s'engagent, ils deviennent patients experts, patients partenaires, représentants d'usagers, patients formateurs, patients enseignants, patients éducateurs, patients coach, patients entrepreneurs, patients consultants, témoins, médiateurs de santé pairs, directeurs d'associations. Et donc, on vous propose de parler un tout petit peu de l'engagement, de donner quelques ouvertures et quelques questions sur cet engagement que l'on vit sur le terrain actuellement.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ça révolutionne vraiment le système de santé parce qu'on assiste à des patients qui deviennent savants sur la pathologie et parfois même plus savants, de façon en tout cas très générale, plus savants que le médecin généraliste qu'ils vont consulter. Et donc ça, c'est une révolution de santé qui est particulièrement visible dans ces pathologies, mais c'est aussi visible dans le Covid, enfin, c'est en train de devenir également.
Alors, on parle de l'engagement patient avec une définition de Olivia Gross.
Alors, je vais vous la lire. La définition d'Olivia Gross, en fait, sur l'engagement des patients, elle appelle engagement des patients les actions entreprises dans la durée par des patients en collaboration avec des professionnels pour améliorer leur santé et ou le système de santé au moyen de leur savoir expérientiel et ou situé. Et ça, peut-être Alexandre tout à l'heure donnera plus d'informations là-dessus, et des compétences requises pour leur engagement spécifique. Alors, vous voyez qu'on met les formes, on travaille vraiment la sémantique, parce que c'est vrai qu'on s'engage sur quelque chose qui est nouveau et qui peut heurter un certain nombre d'acteurs de ce système de santé qui est en constante évolution et où c'est assez nouveau quand même à l'échelle du soin, de l'histoire du soin, cet engagement des patients.
Et justement, la Haute Autorité de Santé en 2020 nous indique que cet engagement conjoint concourt à un meilleur service rendu aux personnes concernées et à l'augmentation de leur pouvoir d'agir. Alors, on peut reprendre la slide précédente, qu'on a avancé un peu vite.
Pardon, j'ai un peu trop anticipé.
Pas de souci. En fait, les textes là qu'on voit, ils expriment de plus en plus cette réalité socio-culturelle. Et en fait, ce sont des actions dans lesquelles patients et soignants sont ensemble pour de meilleurs résultats. Alors, si on parle de patients, alors je vous ai donné beaucoup d'exemples de patients engagés, et si on parle de patients partenaires ou patients experts ou patients ressources, alors il semble qu'il y ait quand même un fond commun dessus, c'est d'avoir un patient qui a une maladie chronique, c'est un patient qui arrive à prendre du recul sur sa maladie, et en plus, il a la volonté, en fait, de s'impliquer pour aider. Et actuellement, sont légalement reconnus en France seulement trois typologies de patients. Alors, depuis 2002, c'est le représentant des usagers. Ensuite, l'intervenant en éducation thérapeutique du patient depuis 2014 et le père aidant ou le médiateur de santé père en santé mentale. Les premières formations datent de à peu près 2012.
Alors, en France, on estime à peu près qu'on a 20 millions de patients qui souffrent de maladies chroniques. Ça fait un tiers de la population. Et en Allemagne, on parle même de 50% de la population. Certainement que le périmètre est peut-être un peu différent, mais on comprend que c'est quand même quelque chose qui touche une grande partie de la population. On connaît tous des malades chroniques autour de nous. Et ce qu'on peut voir en fait avec notamment l'apparition de nouveaux modes de communication, des réseaux sociaux et de la facilité à communiquer, il y a de plus en plus de patients chroniques qui veulent partager leur expérience. Et dans la crise sanitaire que l'on vit depuis 2020, on voit bien que ça a mis en lumière tous ces patients chroniques, notamment alors sur le Covid, ça a été par leur vulnérabilité réelle ou à vérifier devant le virus, hein, puisqu'on a remis sur le devant de la scène tous ces malades chroniques en disant ils sont plus fragiles que les autres. On a redécouvert qui était plus fragile, donc on a même vu des catégories de gens qui ont été mis un petit peu devant, à être vaccinés en priorité, ainsi de suite. Donc on s'est repenché, ils ont émergé à nouveau, ils ont été à nouveau en lumière, et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont donc pris la parole. Alors la parole des patients, on la connaît notamment par le représentant des usagers, dans les hôpitaux. Donc ça, c'est le représentant des usagers est élu, donc il a une légitimité qui tire de cette désignation. Il n'a pas forcément un ancrage dans le soin. C'était notamment évoqué dans la journée qu'on vient de faire aujourd'hui sur la démocratie en santé également. Et en fait, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle le patient partenaire. Ça nous pose quand même pour nous la question du patient. Qu'est-ce que c'est qu'un patient en fait? Est-ce que c'est un patient qui a une pathologie particulière, qui du coup la connaît bien, est capable de l'expliquer, mais n'a pas forcément de connaissance des autres pathologies? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est un usager? Est-ce que c'est et ou un usager, un patient? Est-ce que c'est une personne concernée? C'est désormais l'appellation qui est un peu plus utilisée, notamment par la Haute Autorité de Santé. Alors, une personne concernée, ça n'est pas que la personne qui souffre d'une maladie chronique, c'est aussi éventuellement l'aidant, les personnes qui l'aident au quotidien. Ça peut être des proches, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment concernés par cette pathologie, qui en attendent, qui attendent des améliorations, qui attendent un certain nombre d'actions sur cette pathologie.
Et on peut continuer les questions qu'on vous soumet en se posant la suivante. Est-ce qu'on peut avoir un équilibre entre la validation des acquis de l'expérience d'un patient, avec des formations souvent courtes, et les études des soignants? On peut se poser la question de comment valoriser le patient. Qu'est-ce qui garantit qu'ils ont les compétences pour s'engager et aider? Et puis, au-delà de ça encore, peut se poser la question de la rémunération des patients engagés. En fait, les patients ont une formation de base à l'origine, enfin leur vie professionnelle. Et en fait, est-ce qu'ils doivent être payés? Comment? Et réfléchir dessus. Alors, on peut passer à la slide suivante. Et Alexandre, en fait, pourra d'ailleurs compléter en donnant son expérience canadienne entre la différence entre France et Canada.
Alors, on va prendre un exemple, donc qui est un exemple que nous, on connaît bien, pour vous expliquer un peu ce qui peut se passer comme ça dans les oppositions, dans les mondes qui s'affrontent. Donc, l'exemple de la maladie de Lyme, ou ce qu'on peut appeler la Lyme War, la guerre de Lyme, qui a lieu pas seulement en France, hein, qui a lieu dans beaucoup de pays, dans le monde. Donc je vous lis en français en dessous ce qui est écrit sur le petit dessin humoristique. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez la maladie de Lyme. La bonne nouvelle, c'est que comme je ne crois pas à cette maladie, vous allez très bien. Et ça illustre, en fait, on a choisi ce petit dessin humoristique pour faire réfléchir, pour faire rentrer un petit peu dans le process. C'est-à-dire que on a affaire à un médecin qui ne croit pas à la maladie et un patient qui semble souffrir. Et du coup, que va-t-il advenir de ce patient? Est-ce qu'il va être soigné? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Donc aujourd'hui, en France, sur la maladie de Lyme, les chiffres ont triplé en l'espace de 5 ans, en tout cas pour les cas référencés. Et il n'y a pas beaucoup, enfin tous les cas ne sont pas référencés, loin de là. Aujourd'hui, Santé publique France dit qu'il y a 2 ans à peu près, sur le dernier chiffre vraiment connu, il y avait 68 000 nouveaux cas par an. Donc par rapport par exemple au cancer du sein, c'est environ 60 000. Ça vous donne une petite idée du nombre de cas. Tous ces nouveaux cas par an ne deviennent pas forcément sévères ou chroniques, mais un certain nombre d'entre eux, qui viennent du coup accroître chaque année ce qu'on appelle un petit peu difficilement un stock de malades, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui sont malades sévèrement et de façon chronique. On estime, en tout cas dans ce qu'on a pu faire, dans le travail qu'on a fait notamment avec les députés, on estime aujourd'hui à environ 100 000 malades sévèrement atteints en France qui souffriraient de la maladie de Lyme et de co-infection. Ça fait beaucoup de gens. Et ce qu'on peut noter de principal dans cette affaire, c'est qu'il y a des oppositions qui sont extrêmement violentes. C'est une pathologie. Si vous tapez le mot Lyme sur Internet, vous verrez les guerres d'influence qui ont lieu par rapport à ça, qui ressemblent beaucoup à celles du Covid qu'on vient de vivre et qu'on vit toujours. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là, d'ailleurs, de faire la comparaison. Les médecins ne sont pas tous d'accord. Vous avez un certain nombre de médecins, l'Académie de médecine en tête d'ailleurs, qui ne reconnaît pas la forme chronique et qui peinent à faire des diagnostics différentiels. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à proposer de diagnostics différentiels qui soient satisfaisants et du coup de traitement thérapeutique. Des médecins qui essayent de soigner cette pathologie avec les moyens du bord, on va dire, donc qui proposent des traitements qui sont contestés par d'autres. Et puis des malades au milieu qui sont les otages en fait de cette polémique et qui n'ont pas de traitement officiel sur le long terme, alors qu'on a des patients en chaise roulante, des patients qui meurent parce qu'on en meurt aussi et pas de traitement référencé.
Alors, lors d'un cours au Collège de France, Didier Fassin a fait une analyse qui nous a beaucoup plu et on va vous donner. En fait, il explique que d'un côté, il y a les malades en souffrance physique et psychologique qui s'appuient sur des éléments subjectifs. C'est finalement la perception de leurs symptômes. Et pour le malade, c'est difficile de donner un nom, de trouver la cause de leur souffrance. En parallèle de ça, il y a des médecins qui restent sur un langage objectif. Sur leurs connaissances, qui recherchent le diagnostic à donner, bien calés dans des tableaux dans leur tête. Et donc, on a vraiment une confrontation entre le subjectif et l'objectif. Mais actuellement, ce qui se passe sur le terrain, c'est que les patients ne sont pas bien soignés. Et en fait, nous, on essaie de s'engager notamment pour donner aux patients la capacité d'essayer de se soigner. Et c'est aussi notre expérience, et c'est une question que je vous pose. C'est est-ce que vous pouvez penser qu'on est qu'on est un papier de résultat d'examen, ou alors qu'on est un patient avec des symptômes?
Alors la question qu'on se pose effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des patients sont très peu examinés sur le plan clinique par leur médecin. Je pense que vous en avez fait l'expérience, ça devient assez rare d'être examiné, je dirais, sur l'intégralité du corps dans le cadre d'une consultation médicale. Et donc, est-ce qu'on est une sérologie? Est-ce qu'on est des symptômes? Est-ce qu'on est un ensemble des deux? Est-ce qu'on est un ensemble de connaissances? Le cours justement de Didier Fassin aussi nous emmenait sur quelque chose qui nous est très proche, c'est la différence entre le normal et le pathologique. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est pathologique? Qu'est-ce qui tranche sur ce qui est pathologique? On est dans une logique, forcément, si on regarde du point de vue du patient, où on suppose quand même que c'est le patient qui dit qu'il est guéri. Or, ce n'est pas si simple, puisque ça peut être le résultat d'une sérologie. Sérologie étant négative, on peut dire vous êtes guéri. Vous avez, dans le cas de la maladie de Lyme, vous avez fait 3 semaines d'antibiotiques. Vous êtes censé être guéri. Et ça pose toute la question du normal, du pathologique, du subjectif, de l'objectif, des symptômes, de la plainte du patient, puisque à l'origine et à la base, ce qui est quand même important, en tout cas nous, c'est ce qu'on essaye de ramener sur le devant du débat, de la discussion, c'est quand même le vécu du patient, les symptômes qu'il peut avoir dedans. Dans les médecins qui traitent cette pathologie en France, on a entendu des choses très différentes, comme par exemple, c'est l'expérience qui tranche. On a entendu cette phrase d'un professeur, et en face, on a entendu des phrases comme la science, rien que la science, c'est la science qui tranche, c'est-à-dire c'est la science qui dit, voilà, selon des études, comment on va soigner le patient ou comment on va lui dire qu'il n'est pas dans le bon parcours de soins et qu'on ne peut rien faire pour lui dans ce parcours de soins. Et également, on a entendu beaucoup, parce que c'est aujourd'hui un petit peu la façon dont se fait la médecine, un pathogène, une maladie, un traitement. C'est-à-dire, j'ai un pathogène, j'ai une bactérie, cette bactérie définit une maladie, et cette maladie, on a un traitement, un ou plusieurs traitements, mais enfin, globalement, on a une voie thérapeutique derrière. Or, aujourd'hui, des maladies comme celle de Lyme, celle du Covid aussi d'ailleurs, renversent un petit peu la table sur ces connaissances-là, sur cette façon d'envisager le monde. Et je voudrais bien expliquer qu'en fait, tout ce qu'on va dire avec Laura n'est pas polémique justement. Nous, on essaye de regarder les différentes visions du monde. Pourquoi ça s'affronte? Pourquoi on en est là? Et où est finalement la légitimité? Est-ce que c'est le savoir expérientiel des malades? Est-ce que c'est le savoir du médecin? Est-ce que c'est celui des études scientifiques? Et c'est vrai qu'on avait envie d'aborder avec Laura la fameuse EBM, qui n'est pas très connue en fait du grand public, qui est plutôt connue du petit monde des malades, des médecins. C'est l'Evidence-Based Medicine. Donc on peut passer à la slide suivante peut-être, voilà. Donc qu'est-ce que c'est que l'Evidence-Based Medicine? Donc on vous a donné en fait la définition de Sackett, qu'il a donnée en 1996. C'est celle qui nous parle le plus, en tout cas à nous. Le but de l'Evidence-Based Medicine, c'est d'intégrer l'expérience du clinicien, donc du médecin, les valeurs du patient et les meilleures informations scientifiques disponibles pour guider la prise de décision concernant la stratégie clinique. Ce qui vous fait trois piliers, l'expérience clinique, les données de la recherche et puis le vécu du patient. Et à l'intersection de tous ces ensembles, vous avez la décision. Alors ça, c'est un monde idéal. Mais on voulait revenir un petit peu sur l'EBM parce que c'est intéressant de comprendre sur quoi repose le débat. Et dans le Covid, c'est également un fil rouge parce que vous avez assisté tous et toutes à la bataille sur l'hydroxychloroquine ou sur d'autres thérapeutiques. Vous avez assisté aussi à la bataille sur le ou les vaccins. Vous avez assisté à la bataille sur le Covid long. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se soigne? Et en fait, ce qui nous a paru vraiment intéressant, c'est cette place du patient dans l'EBM, dans l'Evidence-Based Medicine. Du coup, on est obligé de s'interroger un petit peu sur ce que c'était à l'origine, l'Evidence-Based Medicine, parce qu'elle a été théorisée à la fin du XXe siècle. Et à l'origine, l'EBM était destiné à l'enseignement. C'est-à-dire que c'était pour fonder les enseignements non pas sur l'intuition du médecin, comme ça se faisait depuis très longtemps, mais sur des données probantes. Donc, l'origine de l'EBM, c'est ça. C'est pour pouvoir densifier l'enseignement, le rendre intelligent, on va dire, de toutes les dernières données de la science. Et puis ensuite, ce concept a été beaucoup repris. Il y a eu un problème de traduction parce que, en fait, Evidence-Based Medicine, c'est de l'anglais, ça ne vous a pas échappé. Et en fait, la traduction de evidence n'est pas toujours évidente, puisque ça peut être l'évidence comme preuve, et ça peut être un élément, juste un élément. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres. Si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres définitions et traductions qui ont apporté pas mal de confusion. Le concept a été beaucoup repris dans les années 90 et en fait, il a évolué vers une médecine fondée sur les preuves et vers une médecine qui est fondée sur l'épidémiologie clinique, c'est-à-dire sur des statistiques d'épidémiologie. Sur des études qui ont été faites et en laissant de côté cette fameuse intuition et ce qu'on va plutôt appeler l'expérience clinique du médecin. Dans une vision extrême, ça peut conduire à se recroqueviller un petit peu sur les connaissances qui sont déjà établies parce que ça devient difficile d'émettre des avis, des opinions et de faire finalement des hypothèses de recherche. Et du coup, on voulait souligner en fait avec Laura, entre l'approche décisionnelle qui est purement intuitive, basée sur des sentiments et des opinions, et puis une médecine dont les décisions sont toujours fondées par des éléments de preuve et de données probantes, eh bien, peut-être que ça a contribué notamment à construire des débats comme celui de la maladie de Lyme, comme celui du Covid, parce que on a un petit peu aujourd'hui, on est un petit peu aujourd'hui en train d'essayer de revenir en arrière. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la crise Covid. Le but de l'EBM, c'est d'intégrer vraiment l'expérience du clinicien, les valeurs du patient et les informations scientifiques pour guider cette prise de décision concernant la stratégie clinique. Je vous répète un petit peu la définition parce que c'est ça qui est important et devant les premières confusions, c'est pour ça que Sackett, en 1996, a réécrit cette définition. Cette évolution en fait, de la définition, elle traduit le souci de pondérer les données actuelles de la science dans un process de décision qui tienne compte aussi du patient et du soignant dans le contexte de soins. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est la relation entre le soignant et le soigné. On nous posait la question finalement pourquoi le patient peut être écarté de la démocratie sanitaire, pourquoi il peut être écarté finalement même du diagnostic. Parce qu'en fait, sur une médecine qui va être fondée sur l'épreuve uniquement, on peut imaginer à l'extrême qu'on n'a même plus besoin du patient. En fait, il suffit d'avoir des données épidémiologiques, d'avoir des résultats de sérologie. Et on n'a pas forcément besoin du patient. Donc évidemment, on caricature un petit peu, mais c'est pour illustrer un petit peu ce qu'on a pu connaître dans le Covid et la maladie de Lyme. Donc comme on le disait juste avant, Laura, l'examen clinique, effectivement, aujourd'hui.
Voilà, moi c'est une question encore que je vous pose. C'est essayer de vous rappeler la dernière fois où le médecin vous a proposé de s'allonger sur sa table d'examen. La dernière fois où vous avez été ausculté. Une autre question.
Et du coup, ce qu'on observe en fait dans la crise actuelle, c'est que des patients, des médecins reprennent la parole en termes de démocratie sanitaire pour donner leur vision des choses, soit le vécu de la maladie, soit leur expérience clinique. On a même plaisanté à un moment donné en disant qu'on avait 65 millions d'infectiologues en France. Ce qui est intéressant en tout cas là-dedans, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça a replongé les Français dans leur système de santé. Tout le monde s'est réinterrogé sur les moyens, sur le fonctionnement, sur la démocratie sanitaire. On a vu des oppositions qui se sont marquées, c'est vrai, mais il y a eu un débat qui est né, et nous, ça, c'est ce qui nous a beaucoup intéressés. Débat qui est né parce que tout le monde se sentait vulnérable, évidemment, mais débat quand même.
Et du fait du Covid, en fait, l'engagement des patients augmente. Et si je vous parle des alcooliques anonymes, des engagements des patients dans le sida, en fait, on peut penser que c'est un début d'empowerment du patient. Et en fait, avec Covid, il y a eu des tas de possibilités qui se sont ouvertes. Déjà, en fait, on se parle là ce soir ensemble par Zoom. Et ben, ça a été peut-être certainement une impulsion donnée par le Covid. Et en fait, il y a eu par exemple la création de la ligne C, la ligne Covid pour des malades, par des patients en fait, pour des malades chroniques. Dans le cas, je suis malade chronique, j'ai le Covid, j'ai la Covid, que se passe-t-il? Et donc, en fait, c'est des aides qui se sont mises en place pour ça. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, avec le groupe préface, on engage, on propose une troisième voie. On est, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans une situation où il y a blocage. Les docteurs s'affrontent, mais les patients sont là et les patients souffrent. Et nous, en tant que patients ressources, on apporte notre expérience et on a envie de leur dire, ben, discutons quand même, parce que notre finalité à tous, c'est d'aider le patient qui souffre. Et nous, on a de l'expérience, nous, on a testé des choses. Et nous, on connaît d'autres patients, on discute avec eux, et donc on aimerait apporter ces choses-là. Donc le périmètre d'intervention très rapidement de préface, en fait, c'est aider les patients à collaborer avec tous les médecins, peu importe en fait leur mode de pensée. C'est co-construire avec les autorités de santé, c'est contribuer à évaluer des solutions thérapeutiques et être partenaire dans la recherche et l'innovation. On peut être patient, chercheur.
Et donc, cette troisième voie, en fait, pour que vous compreniez bien, c'est une voie entre ben, les médecins d'une part, en tout cas les médecins qui ne valident pas la réalité d'une maladie de Lyme chronique, dans notre cas, et de l'autre côté, les associations de patients qui se sont fatalement rigidifiées aussi dans certaines postures. Je dirais que les deux postures se sont un petit peu rigidifiées dans un affrontement qui aujourd'hui est assez compliqué du fait de ce qu'on vous expliquait avant, notamment sur l'évidence-based medicine. Donc c'est vrai que l'idée, comme ça se fait dans beaucoup de pathologies, de travailler avec des patients ressources, des patients partenaires, est quelque chose qui nous a intéressés. C'est pour ça qu'on a cofondé ce collectif, en se disant il y a certainement moyen d'aller travailler avec les médecins dans le parcours de soins et d'apporter, en se formant et en travaillant, en réfléchissant, d'apporter ces pratiques et de pouvoir faire évoluer notamment le parcours de soins. Donc, on a échangé notamment avec un certain nombre de médecins qui sont très intéressés par cette voie, qui sont même tellement intéressés parce que ils sont très démunis en fait pour accueillir ce flot de patients qui ne savent pas où se diriger. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes que ce qu'on peut satisfaire, nous, avec le collectif Préface. Donc, on va tranquillement travailler sur différents axes, mais on ne va pas pouvoir immédiatement répondre à l'ensemble de la demande. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette demande existe. Je voudrais vous raconter un petit peu, puisqu'on parle de la démocratie sanitaire, comment l'expérience qu'on a eue dans la maladie de Lyme, notamment avec l'association que j'ai créée en 2018, qui s'appelle ChroniLyme, sur le partenariat avec les élus. Parce qu'en fait, la maladie de Lyme était un sujet confidentiel. Les élus étaient saisis dans leur circonscription par les malades. Donc, à chaque fois qu'ils faisaient une conférence, ils avaient dans l'auditoire des gens qui les attrapaient à la sortie pour leur dire « voilà, je suis malade ». Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils posaient des questions, puisqu'un député, ça pose des questions au Parlement, donc le mercredi après-midi. Donc, ils posaient des questions, chacun de façon individuelle, sur la maladie de Lyme. Quand est-ce que ça va être reconnu? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Donc, ils interpellaient les différents ministres de la Santé. Ils n'avaient pas d'outils. Pas de chiffres vraiment partagés sur lesquels s'appuyer pour analyser la situation, parce qu'entre les chiffres, vous savez, c'était comme la police et les manifestants, entre les chiffres des associations de patients et les chiffres officiels, il y avait un gap très important qui ne permettait pas du tout, du coup, de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir travailler. Et puis, des associations de malades qui se divisaient et peu professionnalisées, parce que, notamment, il n'y a pas eu l'aide dans la maladie de Lyme des laboratoires, qui sont souvent aidants dans les associations de patients pour structurer, pour financer, pour faire un certain nombre de choses. Mais dans la maladie de Lyme, il n'y a pas eu de laboratoire intéressé pour venir travailler avec eux. C'est une des raisons, entre autres, qui a certainement fait que cette professionnalisation ne s'est pas encore faite. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un travail de plus de 3 années de rencontres, de partage d'informations avec à la fois les sénateurs et les députés, de propositions de solutions concrètes à mettre en œuvre, jusqu'à des amendements pour demander des fonds pour la recherche. Et ce que je voudrais un petit peu vous expliquer, c'est la méthode pour conclure sur tout ça, c'est que notamment on a eu un souhait de transparence. Souhait de transparence parce qu'aux États-Unis, il y avait une initiative intéressante qui s'appelait le Tick-Borne Disease Working Group, qui étaient des groupes de travail qui ont été télévisés, qui ont été retranscrits sur Internet, avec des débats démocratiques que tout le monde pouvait suivre sur Internet. En France, ce n'était pas le cas, dans les débats au Sénat notamment, sur ces questions-là. Toutes les réunions se faisaient à huis clos. Et on a demandé, début 2018, à des sénateurs, est-ce qu'ils pouvaient organiser des réunions qui soient publiques, qu'il y ait une transparence du débat, pour que justement, dans une opposition aussi frontale, qu'on puisse avoir tous les arguments des uns et des autres, pour qu'on puisse peut-être trouver des arguments sur lesquels s'appuyer pour trouver des voies de conciliation et des voies de construction. Et du coup, ont eu lieu en avril 2019, un an après, des tables rondes, pour la première fois au Sénat, qui ont été télévisées, qui ont été très intéressantes parce qu'elles ont vraiment permis de voir toutes les postures des acteurs, que ce soit des médecins, que ce soit des chercheurs, que ce soit l'Académie de médecine, on a eu, que ce soit Santé publique France, on a eu tous ces acteurs qui ont pu débattre en public. Également, suite à toutes nos sollicitations, s'est monté un groupe de travail sur la maladie de Lyme à l'Assemblée nationale avec une quarantaine de députés qui ont travaillé sur ce sujet. Et puis, plus récemment, une mission d'information Il y a eu aussi une mission d'information sur les finances qui a été conduite avec un rapport qui a été publié il n'y a pas très longtemps et une mission d'information dans laquelle on a été auditionné, donc notamment nous en tant que groupe Préfast, et avec un rapport qui va arriver. Tout ça pour vous dire que les citoyens en fait peuvent monter comme ça au Parlement. On a été reçus, on a été écoutés parce qu'on a apporté un socle en fait. On a apporté un socle de propositions, on a apporté des clés de lecture et on a apporté, je dirais, des outils de réflexion et des propositions pour pouvoir légiférer jusqu'à des amendements où on nous a carrément demandé de les écrire, ce qui était assez surprenant, mais ce qui montre, donc on s'est retrouvé avec nos petits crayons à écrire l'amendement, notamment pour pouvoir flécher des crédits de recherche. Et je trouve que c'est assez intéressant, cette expérience de comment on peut travailler avec le politique. Et comment on peut faire écrire des rapports, c'est-à-dire qu'ils vont écrire leurs rapports avec tout un tas de propositions qui ont été faites par les différents acteurs. Et notamment, évidemment, d'inclure, c'est les propositions qu'on a faites, d'inclure le patient expert dans les futurs plans Lyme, de suggérer des instances dans lesquelles ils peuvent intervenir, de mettre en place un système de reconnaissance ou de certification, parce qu'on est en France, il faut pouvoir certifier, reconnaître les compétences, flécher des financements pour former tous ces patients partenaires, et puis essayer de les mettre en collaboration sur les cas complexes dans le parcours de soins. Voilà.
Et les objectifs, entre autres, du collectif Préfast vont dans le sens de la démocratie sanitaire. C'est notamment, on appuiera sur le point, de former des patients partenaires dans ces pathologies complexes et les intégrer dans un parcours de soins, mettre en place un système pour que les médecins soient aussi formés à ce type de maladie, à ce type d'infection, et contribuer et continuer à éclairer les pouvoirs publics sur la réalité terrain de ces pathologies.
Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est l'évaluation du coût de la maladie, par exemple cette pathologie qui est justement pas reconnue, par rapport à une politique de santé du ministère. Politique de santé publique, c'est quoi? C'est assurer la promotion des conditions de vie favorables à la santé. C'est l'amélioration de l'état de santé de la population. C'est garantir la meilleure sécurité sanitaire possible, c'est garantir aussi l'accès de la population aux soins. Or, une politique de santé est menée, on va dire, j'ai pas de chiffre exact, mais je veux dire 80% des cas, 80-90% des cas. Le reste sont des cas particuliers. Et c'est vrai que ce qu'on nous oppose depuis le début, c'est que finalement, tous ces malades de Lyme seraient des cas particuliers. Sauf que 100 000 personnes gravement atteintes en France, ça ne devient plus du cas particulier. Ça veut dire qu'il y a un coût à ça. Il y a un coût social, il y a un coût économique, financier, il y a un coût de tous ces citoyens qui sont en arrêt de travail, qui ne participent plus à la vie du pays. Et nous, on pense qu'il y a des actions qui sont nécessaires sur ces cas particuliers. Et on pense que justement, avec le collectif Préfast et tous les contacts qu'on a avec les politiques ou instances de santé, on peut peut-être les aider à avoir des grilles de lecture pour pouvoir aller travailler sur l'évaluation plus précise de ce coût. Et ensuite, évidemment, de pouvoir mettre en place des politiques d'amélioration. Donc, en conclusion, nous, ce qu'on en pense, c'est que l'engagement patient peut aussi participer à mieux comprendre, mieux piloter du coup la politique de santé publique en termes de moyens et de stratégie. C'est faire travailler les acteurs de santé ensemble. Et les acteurs de santé, c'est les chercheurs, les médecins, les patients directement sur le terrain. C'est sortir d'une logique de positionnement diagonal, avec le médecin qui est sachant, le patient qui écoute. C'est-à-dire qu'on considère que le patient a aussi des compétences à apporter. Et ce qu'on pense, c'est que la crise sanitaire peut jouer vraiment le rôle d'accélérateur dans ces nouveaux positionnements des acteurs et dans la recherche de solutions. Le politique doit s'adapter à cette nouvelle donne pour co-construire, lui aussi, la politique de santé publique en France. Et l'enjeu, c'est de travailler une alliance entre justement ces médecins, ces patients, ces chercheurs, mais aussi ces citoyens, et de faire tous ensemble un nouveau partenariat sur la santé. Donc voilà, on vous remercie.